Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au bistrot des œnologues. Ravi de vous voir aussi nombreux. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on accueille ce soir Julien Bernard, maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Nanterre. Quelques mots sur son parcours, et tu m'arrêtes si je me trompe. Julien a réalisé son doctorat en sociologie à l'Université de Poitiers, finalisé en 2007. Sa thèse portait sur le travail des pompes funèbres en France. Elle se situait au croisement des sociologies du travail, de la mort et des émotions. Elle a été publiée en 2009 aux éditions Métayer sous le titre de « Croque-mort, une anthropologie des émotions ». Il enchaîne ensuite, après sa thèse, un post-doc sur les risques industriels. Il passe ensuite en 2010 maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre. Depuis, il mène des études sur les enjeux émotionnels et symboliques du don du corps à la science. Et il a entamé une recherche sur l'apprentissage des dimensions relationnelles du travail de soins, donc sur infirmiers, rapport infirmier et médecin. En parallèle, il avance sur des questions de méthode. Il balise le champ de la sociologie des émotions qu'il propose à partir d'une importante revue de littérature qui a permis de concevoir l'ouvrage qui va nous être présenté ce soir, qui s'intitule « La concurrence des sentiments, une sociologie des émotions », publié également à Métayer en 2017. Donc c'est avec plaisir que je te donne la parole.
Merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, je suis ravi d'être ici pour présenter mon dernier ouvrage. Donc je remercie l'Arcé et le Bistrot des ethnologues de leur invitation. Ça a été compliqué pour moi de venir. Je devais venir l'an dernier, ça n'a pas pu se faire. Je devais venir la semaine dernière. Et voilà, j'ai eu très peur pour ma maison qui a subi voilà, des dommages, donc il fallait que je m'en occupe. Je suis heureux d'être enfin à Montpellier pour vous parler un petit peu de mes travaux. Je l'avoue, un peu impressionné du monde qu'il y a aujourd'hui. Et je vous remercie donc de votre présence. Alors, mon parcours a été rappelé, mais avant de présenter précisément l'ouvrage, je voudrais, en fait, au cours des 40-45 minutes qui me sont données, revenir sur mon parcours et vous dire comment un petit peu la thématique des émotions, la problématique des émotions s'est imposée à moi dans mes recherches et comment finalement, année après année, brique après brique, j'ai essayé de me repérer dans un champ qui est très peu balisé en France et comment finalement c'est une articulation entre des expériences de terrain, des recherches de terrain et des réflexions théoriques que s'est construit ce dernier ouvrage. Alors ça a été dit, j'ai fait une thèse sur les croque-morts, les employés de pompes funèbres, mais je voudrais revenir encore avant, quand j'étais tout jeune étudiant. J'ai fait un mémoire de master, ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise de sociologie sur les supporters de football. Et je m'intéressais à l'époque à la question du lien social, qui est une question classique en sociologie, à l'intérieur de ces groupes de supporters. Et il m'est vite apparu, avec quelques entretiens, que ce qui faisait le lien dans ces groupes de supporters, c'était une passion partagée. Et une volonté partagée de vivre des émotions ensemble, donc des émotions collectives, que ce soit au stade ou dans des bars ou à regarder ensemble à la télévision un match à l'occasion d'une retransmission. Et que donc c'était des mobiles, des motifs qui reposaient en premier lieu sur une dimension émotionnelle, sur une dimension sensible, qui créaient ce lien dans ces groupes de supporters. Et quand j'ai commencé à interroger les supporters de football, on m'a expliqué que Enfin, j'ai très vite compris que cette passion du foot ne tombait pas du ciel, n'arrivait pas par hasard, mais était favorisée par un ensemble de facteurs, un grand frère, un père, beaucoup de transmission familiale, de transmission parentale des passions, comme ça, qui faisait que on ne devenait pas par hasard supporter de foot plutôt que supporter de tennis ou de rugby, et que dans certains lieux, comme Saint-Étienne, un grand lieu du football, il était presque difficile de ne pas suivre le football. Donc cela signifie qu'il y a des environnements favorables, des environnements familiaux, des environnements locaux, à l'émergence de certaines passions, comme celle du football. J'ai un peu décliné cette thématique de la passion, donc de la passion partagée, avec les fans de musique, et finalement c'est la même chose qui est ressortie. Et j'en ai déduit que la passion était une forme de disposition, une disposition affective, c'est-à-dire une propension pour les individus à être émus pour certaines choses, alors que d'autres ne le seraient pas du tout. Donc il y aurait une construction, finalement, de ces dispositions affectives, en tout cas pour le domaine des passions. Quand on s'intéresse aux émotions, comme par exemple la joie à la suite d'une victoire, la tristesse à la suite d'une défaite, on constate évidemment que quand on suit le scénario d'un match ou la situation sociale, le cours d'action sociale, que les émotions arrivent à certains moments particuliers. La passion serait plus de l'ordre de la disposition, quelque chose qui s'étale dans le temps, hein, alors que les émotions arrivent à des moments précis. Et qu'est-ce qui fait que ces émotions se déclenchent ? Eh bien, ce sont certains événements, mais aussi certains dispositifs. Le stade, par exemple, m'a semblé une configuration sociale qui permettait, qui facilitait l'expression des émotions qui étaient alors à l'état latent. On y va avec une certaine excitation, on a envie d'hurler sa joie ou d'hurler des insultes contre l'arbitre, peu importe. Il y a cette excitation qui est là, mais à un certain moment, le dispositif scénique, la dramaturgie même du sport, un peu comme dans une pièce de théâtre, fait que certaines émotions sont produites par le dispositif. Donc je me suis interrogé à comment articuler finalement une pensée de la construction des sentiments, hein, conçus comme disposition, et l'action de certains dispositifs à un moment donné qui viennent actionner ces dispositions. Là-dessus, je m'engage dans une thèse sur les croque-morts par nécessité. En réalité, je m'engage dans les pompes funèbres en tant qu'employé pour financer mes études. Et là, je découvre tout un monde professionnel dont j'ignorais tout. J'y vais un peu par hasard. À ce moment-là, je suis un peu tête brûlée, peut-être un peu inconscient, mais en me disant qu'après tout, ça ne devait pas être si terrible. Bon, il y a des aspects terribles, c'est vrai, je les ai découverts par la suite, mais pas toujours et tout le temps. Et je découvre un groupe professionnel, je découvre plusieurs collectifs de travail, mais globalement un groupe professionnel qui a pour mission d'accompagner les endeuillés, d'organiser les enterrements, et qui, au fil des expériences, finalement, a une certaine habitude de la tonalité émotionnelle des situations qu'ils ont à gérer. Et donc, je découvre des croque-morts qui sont finalement très peu émus par les situations qu'ils vivent professionnellement. Des croque-morts habitués aux circonstances. Alors évidemment, les circonstances peuvent être plus ou moins dramatiques, et les professionnels aussi, fussent-ils habitués, ont des émotions. Mais je découvre finalement un collectif de travail qui maîtrise assez bien les émotions et qui se prévaut de pouvoir aussi accompagner, gérer, aider les personnes en souffrance, au même titre que des psychologues ou, comme je suis en train d'étudier cette profession, les infirmières, finalement, avec une formation beaucoup moins poussée. Et là, je m'interroge sur ce qui fait cette compétence émotionnelle, en quelque sorte, cette capacité à faire avec les émotions, à gérer ses émotions. Et je découvre toute une littérature en sociologie du travail, une littérature américaine, autour de la question du travail émotionnel, qui est l'idée que il y a des codes de comportement qui sont imposés dans certains métiers, et en particulier dans les métiers de service, qui se développent évidemment énormément dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la tertiarisation de la société, et qui demandent donc aux professionnels de savoir gérer leurs émotions, mais aussi de savoir s'adapter aux émotions des personnes avec qui ils travaillent. En même temps, je retrouve des éléments que j'avais étudiés avec les matchs de foot dans les enterrements. Alors, quel est le rapport ? C'est qu'on est dans des situations sociales que j'ai qualifiées de sensibles, des situations sociales sensibles, où la majorité des personnes présentes vivent un moment d'émotion et conçoivent le moment comme devant être émotionnel. Ce que j'ai constaté, c'est que quand dans les enterrements, il n'y avait pas d'émotion, puisque du coup j'ai travaillé dans les pompes funèbres, j'ai fait une centaine d'enterrements, il y a quelque chose de très très bizarre. Un enterrement sans émotion, un enterrement sans tristesse, c'est particulièrement bizarre. Ou imaginons un mariage sans joie, c'est tout à fait particulier. Et là, je découvre une notion qui est très importante en sociologie des émotions, qui est celle de règles de sentiment. C'est l'idée qu'il y a des conventions, des normes, concernant les émotions qu'on doit exprimer dans les situations, et même qu'on doit éprouver. Et tout ça s'articule, c'est une sociologue qui s'appelle Harley Rothschild qui a popularisé ça, ça s'articule avec le travail émotionnel dans le sens où, quand on ne ressent pas l'émotion qui est attendue dans une situation, on doit faire un effort pour au moins montrer l'émotion qui est attendue. C'est-à-dire, comme disait le sociologue américain Erving Goffman, faire bonne figure, et être au moins de façade, c'est-à-dire avec un certain jeu d'acteur, un certain jeu de comédien, certains diront avec un peu d'hypocrisie, dans la tonalité émotionnelle attendue, normale. Et il m'a semblé que ces professionnels de la mort étaient eux-mêmes des opérateurs de cette norme émotionnelle. C'est-à-dire que quand, ça m'est arrivé quelquefois, quand des endeuillés se disputaient au cimetière, parce que ça peut arriver, des proches dans la famille qui se disputent, alors est-ce déjà la question de l'héritage, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas considéré comme un comportement approprié, et les maîtres de cérémonie, dans ces cas-là, prenaient l'initiative d'aller calmer les belligérants, j'allais dire, ou en tout cas de leur dire d'aller régler leur compte ailleurs, parce que ce n'était pas le moment, ce n'est pas le lieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des normes concernant les moments et les lieux dans lesquels on doit ou on peut exprimer certaines émotions. Certaines émotions vont être prescrites. Je fais un petit peu d'histoire de la sociologie. Durkheim disait déjà qu'il y a un caractère obligatoire à certaines émotions, c'est exactement ça, alors que d'autres sont proscrites. Et dans la même idée, il y a certaines situations où on ne peut pas ne pas avoir d'émotion ou ne pas en montrer. Et l'enterrement en fait partie. Et donc du coup, j'ai essayé, donc, dans mon premier ouvrage, Croque-mort, qui est paru chez le même éditeur, que j'encourage évidemment à acheter, puisque je récupère 1 € sur chaque bouquin vendu, donc ça m'intéresse. Il y a chez les professionnels de pompes funèbres une capacité à accompagner ce rituel de sorte à ce que le rituel d'enterrement soit à la fois triste et digne. Ce qui m'a semblé une forme de contradiction, dans le sens où il faut qu'il y ait un peu d'émotion, parce que sinon, ce serait bizarre, ce serait pas normal. Effectivement, je vous l'ai dit, j'ai vu ça, c'est très étrange. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que quand il y a trop d'émotions, finalement, on n'arrive plus à faire le travail le travail, l'enterrement, c'est-à-dire d'emmener le mort à sa dernière demeure par une succession de phases. Malheureusement, on connaît tous ça. Donc, j'étais dans ce que les sociologues appellent une approche interactionniste des émotions, puisque je m'intéressais aux interactions entre les professionnels et leurs clients au niveau de la gestion des émotions, envisagée comme une compétence professionnelle qui peut s'acquérir en formation, mais qui, dans le cas des pompes funèbres, s'acquiert surtout avec l'expérience sur le tas. Et je découvrais aussi une chose qui continue de m'intéresser, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est que les émotions font l'objet de jugements. Les émotions font l'objet de jugements de la part des uns sur les autres. Hein, on va considérer que telle émotion est déplacée, telle émotion est normale, mais elle est disproportionnée. Et parfois, on juge nous-mêmes nos propres émotions. Et on se dit, ah, je m'attendais à être triste et finalement je ne le suis pas. Ou, c'est bizarre, j'aurais dû être en colère, d'habitude je m'énerve pour ce genre de choses, mais là je ne m'énerve pas. Et donc, on catégorise les émotions des autres, parfois différemment, et on les juge. Je prends souvent, pour exemple, le débat présidentiel entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007, si je ne me trompe pas. Alors ceux qui ont vu ce débat se souviennent qu'il y a eu une altercation, une prise de bec entre les deux candidats au sujet de la prise en charge des handicapés dans les écoles. Et Nicolas Sarkozy disait « j'ai beaucoup œuvré à ça » et Ségolène Royal disait « non, moi j'ai beaucoup plus œuvré à ça ». Et elle s'énerve, et Nicolas Sarkozy, qui était connu pour être un peu nerveux, reste d'un calme olympien et discrédite son adversaire en disant « écoutez, si vous voulez être président de la République, il faut maîtriser ses nerfs, il faut pouvoir, se contrôler en toutes circonstances, vous allez avoir des situations très délicates à gérer, et là vous ne vous maîtrisez pas, etc. » Donc cette accusation finalement, une accusation en émotionnalité, on pourrait dire, était ici une accusation, un discrédit, finalement une disqualification de son opposante. Ce qui nous amène à penser que dans notre société, on a tendance à opposer l'émotion et la rationalité, chose qu'il faut aussi questionner, car dans beaucoup de cultures du monde, on n'envisage pas les choses de la même manière. Et que les données aujourd'hui des neurosciences, de la psychologie, montrent qu'il n'y a pas d'opposition franche, tranchée, entre émotion et cognition, entre émotion et rationalité. Voilà. Ensuite, bon, je fais un post-doc sur les risques industriels. Je passe un petit peu, mais en fait, je vais aller très vite. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on peut aborder la question des émotions en sciences sociales de plein de manières. Et ce que j'ai découvert dans mon post-doc, c'est qu'on pouvait même envisager une géographie des émotions. Géographie des émotions dans le sens où la perception du risque industriel, donc je vous dire très clairement, c'était à Dunkerque, une ville où il y a une douzaine d'usines classées Céveso, seuil haut, c'est-à-dire des usines susceptibles d'exploser ou en tout cas d'émettre des pollutions de plusieurs sortes. Et quand on fait un questionnaire et qu'on fait des quadrillages de la ville, on se rend compte que dans certains quartiers, on a beaucoup plus peur que dans d'autres. Et curieusement, ce qu'on a découvert à Dunkerque, c'était que ce n'était pas près des usines qu'on avait le plus peur, mais un petit peu plus loin. Et ça rejoignait une certaine sociologie, dans le sens où c'était plutôt des personnes plus diplômées que la moyenne qui se déclaraient inquiètes du risque industriel. Et il y avait un autre aspect qui était que pour ceux qui habitaient tout près des usines, ils pensaient que la pollution passait au-dessus, parce que les fumées passaient au-dessus, et donc retombaient, la pollution retombait plus loin. Nous, c'est bon, on est prêts, on est protégés. Voilà, donc on peut aussi spatialiser, si vous voulez, l'étude de la distribution des émotions dans la société. Puisque l'idée, c'est que selon ce qu'on appelle les propriétés sociales, selon nos statuts, nos rôles, nos expériences, etc., on n'aura pas la même perception d'un même événement, et que donc c'est cette question de l'interprétation, du filtre interprétatif, qui fait que certaines populations vont avoir de la peur par rapport à un objet, alors que d'autres vont se dire « non, mais ça c'est négligeable, moi j'ai peur du chômage, ou j'ai peur d'une agression dans la rue, ou j'ai peur d'autre chose. Voilà. » Par la suite, je m'engage dans une recherche sur le don du corps à la science, qui me semblait un sujet intéressant. Donc, le don du corps à la science, très rapidement, ce n'est pas le don d'organes, hein, c'est vraiment le don de tout son corps à la science, pour des recherches anatomiques, pour l'enseignement des futurs médecins. Qui me semblait très intéressant en miroir de mon travail sur les rites funéraires tout à fait classiques, hein, enterrement, crémation que j'avais fait auparavant, parce que dans la majorité des régions françaises, les personnes qui donnent leur corps à la science n'auront pas de funérailles personnalisées, ni même de sépulture personnalisée. Et la question était, bon, ben, est-ce que ça pose des problèmes aux gens qui veulent donner leur corps à la science ? Ce qui fait que ça expliquerait qu'il n'y a pas beaucoup de dons. Est-ce que ça pose problème à leur famille, etc. Donc, je m'engage dans ces questionnements et je me rends compte que pour les donateurs, ce n'est pas du tout un problème. Pas du tout un problème. L'idée de laisser une trace après la mort n'est pas prépondérante. Que l'idée d'être utile à la médecine est plus forte que ce problème-là. Alors que dans les familles, parmi les proches, l'idée de ne pas pouvoir faire de cérémonie, l'idée de ne pas pouvoir aller se recueillir quelque part, peut poser problème et donc ça peut constituer une pierre d'achoppement dans les familles. Et là, je creuse un peu. J'interroge les anatomistes, les gens qui travaillent. Alors eux, ils ont une vision du corps comme vraiment comme un objet. C'est-à-dire qu'ils vont faire la coupure. C'est pas une ancienne. Enfin, évidemment, c'est une ancienne personne. C'est une personne décédée, mais c'est devenu un objet de travail. Alors entre ce professionnel qui voit le cadavre comme un objet de travail, la famille qui voit ça avec le souvenir de la personne vivante et la personne concernée qui dit « de toute façon, moi, quand je serai mort, donc tout ça ne me regarde plus », on a des conflits de représentation qui créent des émotions différentes. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que je me dis « les sentiments qu'ont les gens à propos d'un objet peuvent rentrer en concurrence ». Voilà, j'arrive enfin au titre du bouquin, donc on est à la première page ici, « La concurrence des sentiments ». Alors, comment est né ce livre ? Mon idée, il me reste combien de temps ? Excuse-moi. Parfois, je pars et puis je m'arrête plus. Une bonne demi-heure ? Très bien. Comment est né ce livre ? Il se trouve que je suis enseignant et que j'ai pu avoir la chance, et j'ai toujours la chance, de pouvoir faire un cours sur les émotions dans un cursus de sociologie. La chance parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres cours sur les émotions en France, dans les cursus de sociologie, et que c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Mon objectif, c'était de montrer que les émotions n'étaient pas seulement un objet biologique ou psychologique. Alors, on sait que c'est biologique. Évidemment, les émotions sont produites, en tout cas se manifeste par des mouvements dans le corps qui sont liés aux hormones, qui sont liés à des substances chimiques, à l'activité électrique du cerveau, que ça se manifeste par une accélération du rythme cardiaque, par un afflux sanguin. Les neuropsychologues détectent même que selon le type d'émotion, ce ne sont pas exactement les mêmes aires cérébrales qui sont activées, les mêmes parties du corps qui sont réchauffées, etc. etc. Donc, il y a une part biologique qui est d'autant plus certaine qu'on sait, oui, par les études neuropsychologiques, que les animaux également éprouvent des émotions et que donc on partage. Je crois que j'ai vu la vie secrète des arbres. Alors peut-être que les arbres aussi ont des émotions, j'en sais rien, mais en tout cas avec les organismes vivants, cette capacité à éprouver des émotions. Alors pour les psychologues évolutionnistes, donc dans la lignée de Darwin, ces émotions ont une utilité pour l'homme. Elles ont une utilité, comme par exemple la peur va nous aider à fuir, ou la colère va nous aider à combattre. Et donc dans l'optique de la lutte pour la vie, pour la survie, les émotions auraient un rôle. Alors, cette approche souffre de quelques limites, dans le sens où on se rend bien compte que certaines émotions peuvent être dysfonctionnelles, hein, que ce n'est pas toujours utile de manifester toutes les émotions qu'on ressent. Dans la vie en société, imaginez si à chaque instant qu'on vit une émotion, on la laissait s'exprimer totalement et librement. La vie serait sans doute plus difficile qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que je crois que la vie sociale est possible à condition que chacun puisse parfois faire une sorte de travail émotionnel, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un effort pour s'adapter aux circonstances et maîtriser en partie ses émotions. Et sans doute, en tout cas c'est une des thèses de Norbert Elias, le processus de civilisation va vers un accroissement de cette capacité de contrôle, de cette capacité de contrôle de soi, même s'il y a des phases où les émotions, période révolutionnaire par exemple, émergent beaucoup plus fort. Les émotions sont biologiques, mais le cadre théorique ne suffit pas pleinement. Les émotions sont également psychologiques. Nous sommes la somme des expériences que nous avons vécues. Il existe des structures de personnalité qui font qu'on peut être plus sensible à tel ou tel aspect de la vie sociale. Et cette variable individuelle, évidemment, des émotions, est ce qui va poser le plus de problèmes à la sociologie. Mais j'essaierai d'y revenir plus tard. Le but de la sociologie des émotions n'est pas de dire qu'il n'y a pas de biologie des émotions et qu'il n'y a pas de psychologie des émotions. C'est de dire qu'il y a aussi des facteurs sociaux qui peuvent influencer le fait d'éprouver certaines émotions ou le fait de les exprimer de telle ou telle manière. Alors c'est ce que j'ai appelé dans un premier temps, dans le livre, la fabrique sociale des émotions. Qu'est-ce qui fait que quand on est dans une famille de supporters de foot, on a plus de chances de devenir supporter de foot à son tour et d'éprouver les émotions du supporter de foot que quand on n'est pas né dans une famille comme ça. C'est évidemment l'importance de l'éducation, de la socialisation, de l'apprentissage, qui fait que il va y avoir un étiquetage de l'émotion attendue vis-à-vis de certains objets, vis-à-vis ou dans certaines circonstances. C'est vraiment cette idée que tu dois comprendre que ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est beau, c'est laid, etc. Et le travail éducatif, même chez les familles les plus ouvertes, les plus tolérantes, etc., repose sur des cadres qui indiquent comment se comporter et comment juger de telle ou telle situation. Et c'est ici qu'il faut revenir un petit peu à la psychologie pour comprendre que lorsqu'on perçoit quelque chose, quand on apprend une nouvelle au journal télévisé, par exemple, il y a un filtre interprétatif qui va nous amener à certaines émotions. Alors, dans certains cas, il n'y en a pas. Si vous traversez la route et qu'un autobus arrive, vous n'allez pas vous poser 36 questions me dire, est-ce que cette voiture roule à tant de kilomètres heure, il me reste 2 ou 3 mètres à traverser, est-ce que je vais me faire écraser? Non. Là, votre instinct de survie vous dit, cours ou arrête-toi, enfin, fais quelque chose pour sauver ta peau. Mais quand vous apprenez la mort de Johnny Hallyday ou de Nelson Mandela, j'espère qu'il n'y a pas de fans de Johnny dans la salle, mais il se pourrait. Vous vous dites peut-être que la mort de Nelson Mandela est plus grave que la mort de Johnny et que... Enfin, je regarde un peu tout le monde, ça va, personne ne me jette de mauvais oeil. Vous vous dites ça et vous vous dites que vous avez plus de raisons d'être triste du décès de cette personne parce que vous considérez que sa perte est plus grave pour la société, pour l'humanité, que dans l'autre cas. Donc il y a des chaînes interprétatives qui sont intériorisées, notamment, évidemment par les expériences vécues, mais aussi par une pression familiale, une pression du milieu social, le bain culturel dans lequel vous êtes. Il y a aussi un contrôle social des émotions. Hein, si vous exprimez une émotion qui paraît déplacée dans le groupe social dans lequel vous êtes, il existe des formes de rappel à l'ordre. Des risques d'être ostracisé, d'être mis à l'écart. Tout ça concourt à ce que les individus intériorisent les normes et les valeurs de leur groupe, ou alors, s'il y a un décalage trop important entre ce qu'on leur demande d'être et ce qu'ils pensent être ou ce qu'ils veulent être, alors il y a un conflit avec la famille, avec le groupe de pères, et les individus vont soit au conflit ou alors essayer de trouver d'autres groupes sociaux dans lesquels leur façon de voir les choses va être admise. D'accord ? Ce qui indique un peu que lorsqu'on a une émotion, il faut pouvoir la justifier. Il faut pouvoir expliquer pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Pourquoi on a trouvé que ce comportement était particulièrement offensant, ce qui explique cette colère. Si les autres disent « mais non, mais il n'a pas été offensant ben, ». Si, non, il faut pouvoir le justifier. Et on justifie, évidemment, en fonction de notre perception personnelle, mais aussi en fonction de normes qui doivent être plus générales et qu'on doit pouvoir partager. Voilà, donc il y a différents mécanismes qui sont bien connus des sciences sociales qui tendent à expliquer que finalement nos émotions, qui sont évidemment quelque chose de très personnel, qui sont vécues de manière intime, qui bouleversent notre corps, émergent peut-être finalement d'une configuration sociale, d'une époque, d'une culture. Hein? Parce que autant il y a une sociologie des émotions, je parlais de géographie des émotions, mais il y a aussi une histoire des émotions et une anthropologie des émotions. Pourquoi à la fin du 19e siècle, les hommes se battaient en duel à la moindre offense? Pourquoi dans certaines cultures, on ne demande pas, je pense au Sulca de Nouvelle-Guinée, on ne demande pas aux gens quelles sont leurs émotions, parce que là-bas, on considère que seule la personne touchée peut savoir ce qu'elle ressent et que ce serait se mêler de ce qui ne nous regarde pas que de dire comment ça va. D'accord ? Dans cette même culture, d'ailleurs, si vous émeuvez quelqu'un, celui-ci peut vous demander réparation. Vous m'avez dit, je donne un exemple, une cérémonie, vous l'organisez très très bien, tout le monde trouve ça très très beau, et à la fin on dit, c'était magnifique, tu m'as touché, tu m'as bouleversé, il faudrait que tu me payes ceci ou cela en dédommagement. C'est complètement fou, imaginez que vous allez au spectacle, vous êtes ému, vous êtes touché, et vous avez demandé à vous faire rembourser votre place parce que ça vous a bouleversé. C'est qu'on est dans une société où la déstabilisation, hein, qui est induite par l'émotion, est perçue comme une offense, comme une forme d'agression en réalité. Parce qu'on perd le contrôle de soi, et donc on a l'impression d'être agressé. Donc c'est très curieux, on a des conceptions tout à fait différentes des émotions selon les cultures et selon les époques. Ce qui laisse à penser, du coup, que c'est quelque chose de très social. Et puisque, selon les milieux sociaux dans lesquels on grandit, on a tendance à ne pas éprouver les mêmes émotions à propos des mêmes objets ou éprouver des émotions différentes, etc., on a une société hétérogène qui est traversée, hein, c'est la thèse de l'ouvrage, qui est traversée par des sentiments qui se trouvent en concurrence. Et alors ça, c'est très visible au niveau des statistiques. Vous prenez les statistiques sur la peine de mort, les statistiques sur la tolérance vis-à-vis du divorce, ou voilà, tout un tas de questions. Je pense 2013 autour de la loi Taubira, il y a eu beaucoup de choses sur les mœurs, des conflits très très forts qui étaient motivés par des émotions très différentes. On a une société qui est traversée par une concurrence de sentiments, une concurrence d'émotions qui sont canalisées dans le débat public, mais qui parfois prennent la forme de conflits ouverts. Et c'est ça qui crée une dynamique dans la vie sociale. Donc si vous voulez, pour le moment, je vous ai parlé d'une approche de haut en bas où nos émotions, en gros, sont déterminées par notre milieu social d'appartenance, notre éducation, etc. Mais comme nos émotions sont différentes, qu'on vit tous dans la même société, ça rentre en conflit au niveau des groupes sociaux, mais aussi au niveau des individus, au niveau des interactions. Et c'est cette confrontation de sentiments différents qui, selon moi, crée la dynamique sociale et le changement social. Donc du coup, dans le livre, j'essaie de montrer à partir de plusieurs champs très précis, enfin des objets très précis. Il y a une partie sur la famille, une partie sur le bonheur, une partie sur les émotions au travail, les émotions face à la mort. Comment finalement il y a une variété de ressentis, d'émotions différentes qui sont socialement construites, mais qui vont rentrer en concurrence et qui vont s'opposer. Et ça peut s'opposer donc au niveau des groupes sociaux, mais aussi tout simplement au niveau des interactions individuelles. Et là, toute la sociologie interactionniste m'intéresse dans le sens où elle montre à quel point il y a à la fois des cadres qui s'imposent, hein, ce qu'on appelle les règles de sentiment, la première étant évidemment le respect d'autrui dans l'interaction, mais que dans ce cadre, il y a des marges de manœuvre avec les émotions, la possibilité de jouer avec les émotions, c'est-à-dire la possibilité d'accentuer des émotions qu'on ressent modérément, hein, évidemment la capacité de réfréner des émotions qu'on a, voire pour les meilleurs comédiens d'entre nous, la capacité de montrer des émotions qu'on ne ressent pas du tout, et que ce soit quand même crédible, et que ce jeu sur les émotions dans les interactions peut être à certains moments des opérateurs pour imposer, pour proposer, mais pour imposer son point de vue dans les situations. C'est pour ça que finalement une sociologie qui serait totalement déterministe, qui dirait voilà, c'est comme ça, tout est programmé, n'est pas satisfaisante, parce que il y a aussi ce jeu possible dans les interactions, dans lesquelles chaque individu peut apporter son style personnel et mettre à l'épreuve finalement ses propres émotions avec celles des autres. Il y a par exemple, je cite une étude assez intéressante sur les fumeurs de crack à Paris. Les fumeurs de crack à Paris qui ont été étudiés par un collègue sociologue, et le sociologue se rendait compte qu'il n'arrivait pas à reconstituer des récits de vie cohérents, parce que les fumeurs de crack racontaient des choses, et finalement quand on croisait les entretiens, c'était jamais la même chose, etc. Et il a fini par comprendre qu'il y avait une forme de stratégie chez ces personnes disqualifiées, qui recherchaient de l'estime, une stratégie pour amadouer, c'est-à-dire pour attrister, ou alors au contraire pour marquer une certaine virilité, pour s'imposer dans le milieu, etc. Et que tout ce qui pourrait être vu comme de la mythomanie, en fait, avait une utilité stratégique pour eux, pour maintenir leur identité, alors qu'ils étaient stigmatisés, et donc pour montrer leur qualité, en quelque sorte. Donc dans les interactions, il s'agit de garder la face, mais aussi éventuellement d'augmenter sa place, c'est-à-dire d'essayer de s'ajuster à l'autre, d'essayer d'obtenir le maximum de ce qu'on peut dans une interaction, étant entendu que la marge de manœuvre va dépendre des statuts et des rôles qu'on a dans l'interaction. Et puis, le livre continue d'avancer à la fois à travers des thématiques, mais aussi à travers des courants théoriques, pour montrer que les émotions sont aussi ce qui va être à la base de changement social. J'ai dit qu'il y avait cette concurrence, mais il y a aussi le fait que les émotions sont des moteurs de l'action. Le mot émotion, d'ailleurs, en lui-même, veut dire mouvement vers l'extérieur. Et quand on pense à différentes émotions, la joie, la colère, on pense à des actions qu'on pourrait faire sous le coup de la joie et sous le coup de la colère. Il y a finalement assez peu d'émotions qui ne renvoient pas à des actions. Il en existe. L'ennui, la tristesse ne sont pas vraiment des émotions tournées vers l'action, mais la plupart des autres émotions, la jalousie, l'envie, le dégoût, vont provoquer des actions plus ou moins typiques. Alors, pour les biologistes, c'est typique, si vous êtes en colère, vous allez serrer les dents, vous allez serrer les poings, etc. Si vous êtes dégoûté, il y aura des expressions faciales, vous allez vous tenir à l'écart, etc. Mais dans la vie sociale, là encore, tout va dépendre de la façon dont on interprète, les objets qui sont à la base de l'émotion et du cadre dans lequel on est et de la possibilité ou pas d'exprimer certaines émotions. Cette thématique des émotions, elle est par exemple beaucoup travaillée aujourd'hui dans la sociologie des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux peuvent être perçus comme des mouvements émotionnels. Attention, je répète encore, je ne fais pas d'opposition entre émotion et rationalité. Je pense que les deux s'entremêlent de manière très complexe et de manière très fine. Mais sans émotion, qu'est-ce qui va nous faire descendre dans la rue? Qu'est-ce qui va nous faire, sans indignation, etc., nous mobiliser? C'est-à-dire que si vous avez un jugement très intellectuel, très froid sur une politique qui ne vous convient pas, de ce jugement très froid va émerger une émotion. C'est-à-dire que c'est cette pensée, ce jugement, cette interprétation, cette évaluation qui va provoquer une émotion et qui va vous mettre en action, vous dire « bon là, je ne peux pas laisser passer » ou alors là, il faut que je prévienne, je ne sais pas quoi, bon, que je me mette en action. Et cette sociologie des mouvements sociaux s'intéresse aujourd'hui à des dispositifs, à tous les dispositifs de mobilisation qui vont essayer justement de toucher les gens dans leurs émotions. Si vous regardez j'ai été marqué, moi, dans ma jeunesse, par les publicités pour la sécurité routière, qui ont été en tout cas à une époque vraiment des publicités choc, avec cette idée que, si les gens sont choqués, ils vont rouler moins vite, etc. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Aujourd'hui, tout le mouvement écologiste est en train de repenser sa stratégie de communication en disant, on a joué sur la peur, on a dit attention, la planète va mal, il faut s'en inquiéter. Et ils essayent de se dire, non, mais la peur n'est pas assez mobilisatrice, il faut essayer de trouver quelque chose de plus positif, allez, on peut y arriver, tous dans la joie, etc. Donc il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur les effets des émotions sur l'action, et sur les manières de jouer sur les émotions des gens pour qu'ils se mettent en action. Tout ça parce que les émotions ont une force très importante dans notre société pour enclencher des mouvements sociaux et enclencher des changements sociaux. Et enfin, le livre se termine sur, un chapitre historique où j'essaye de montrer les évolutions de ce qu'on peut appeler des régimes émotionnels dans la société française contemporaine. Et donc, qui sont à la fois, donc, ces régimes émotionnels, le produit d'une évolution des mœurs, et qui s'imposent finalement comme des nouvelles façons de pouvoir se comporter, en société. Je vais vous prendre un seul exemple. Le comportement des présidents de la République, décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec le président de la République ce soir, hein. De De Gaulle à Emmanuel Macron. Alors, Charles De Gaulle, vous voyez un petit peu le bonhomme, rigolait pas beaucoup. Il avait un ethos à la fois militaire, bourgeois et catholique. On est dans une période où on est au tout début de la télévision, de la communication de masse. Il découvre un petit peu ses nouveaux instruments, comment s'en servir. Bon, il reste très, très droit, on va dire. Valéry Giscard d'Estaing commence c'est un peu plus cool. Disons que 68 commence par, est passé par là. Et il y a eu tout le mouvement, évidemment, européen et américain, autour des mœurs notamment. Les masses médias font partie du paysage politique. Il commence à y avoir un peu plus de cool, une attitude un petit peu plus cool vis-à-vis des médias. Donc, oui, déjà, lui, il était en maillot de bain, je crois, enfin bref. Mitterrand, on revient sur peut-être un petit peu plus sérieux. Mais à partir de Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, on est dans une époque où il faut exprimer ses émotions. Où un homme politique qui resterait dans l'idée qu'un homme public doit maîtriser ses émotions en toutes circonstances est à côté de son époque, finalement, aujourd'hui. Et les hommes politiques doivent communiquer aussi de manière émotionnelle. Et pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Pour le pire. Parce que quand on est dans une gestion de crise, par exemple, on doit être concentré sur des aspects. Il ne faut pas se laisser prendre par les émotions. Il faut être pro, il faut garder la tête froide. Et on peut vous reprocher un manque de compassion parce qu'à un moment donné, vous avez été extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux dans la maîtrise des événements. Mais quand Barack Obama, par exemple, pleure à une cérémonie parce qu'il y a des enfants qui sont fait tuer dans une école, on trouve ça tout à fait normal. Et maintenant, on en est à un point où les journalistes jugent de la sincérité des émotions. Est-ce qu'il est dans l'authenticité ou est-ce qu'il est dans la manœuvre de communication, etc. Évidemment, on ne pouvait pas se poser toutes ces questions il y a 50 ans ou 80. Parce que il y a eu une évolution technique vis-à-vis des médias, mais surtout parce que les codes de comportement ont changé et qu'on a une tolérance plus grande aujourd'hui vis-à-vis de l'expression des émotions, en tout cas pour les hommes, que l'époque du gentleman victorien, je veux dire, du début du XXe siècle, qui devait se comporter de manière très, très sérieuse en toutes circonstances. Donc, les historiens et certains sociologues détectent qu'il y aurait des moments où on est plus dans des attitudes formelles, d'autres moments où on tolère davantage d'informalité dans les comportements, et qu'il y aurait sans doute comme ça des va-et-vient. Et là, ça nous indique quand même que notre rapport aux émotions, notre conception des émotions, varie en fonction des époques et en fonction de tout un tas de paramètres sociaux. Voilà. Donc en conclusion, c'est un bouquin qui traite des émotions dans les sciences sociales en complémentarité et parfois en opposition avec les sciences qui jusque-là s'y intéressaient le plus, c'est-à-dire la biologie et la psychologie, à travers différents sujets. J'ai pas évidemment pas tout développé, mais la famille, le travail. Le bonheur, la mort, les mouvements sociaux, les relations soignants-soignés, Voilà, il y a des chapitres qui peuvent se lire d'ailleurs de manière séparée du reste, pour montrer comment nos émotions sont socialement façonnées, mais aussi comment nos émotions participent d'une dynamique sociale. C'est vraiment les deux. Et en même temps, il y a un parcours théorique qui part de cette imposition de cadre qui nous formate émotionnellement, jusqu'à la mise en œuvre de nos émotions, le travail sur nos émotions, dans l'action, le changement, le mouvement social. Voilà, je vous remercie. Je ne peux pas contrôler le temps, aucune idée.
De voir le temps. Merci Julien pour ta présentation. Place aux questions.